Bonsoir. Nous sommes évidemment très heureux de vous accueillir, à la fois si nombreux et si fidèles, en l'occurrence pour découvrir ou redécouvrir ce très très beau film d'Imamura, Histoire du Japon racontée par une hôtesse de bar, et pour découvrir ou redécouvrir Jean-Louis Comolli qui va nous raconter l'histoire du Japon racontée par une hôtesse de bar. Voilà. J'ai, plutôt que de paraphraser ce qui va être bien mieux dit par Jean-Louis, j'ai juste un petit texte en cadeau que je voulais vous faire et te faire. Le piano commença à jouer, la lumière s'éteignit, Suzanne se sentit désormais invisible, invincible, et se mit à pleurer de bonheur. C'était l'oasis, la salle noire de l'après-midi, la nuit des solitaires, la nuit artificielle et démocratique. La grande nuit égalitaire du cinéma, plus vraie que la vraie nuit, plus ravissante, plus consolante que toutes les vraies nuits. La nuit choisie, ouverte à tous, offerte à tous, plus généreuse, plus dispensatrice de bienfaits que toutes les institutions de charité et que toutes les églises, la nuit où se consolent toutes les hontes, où vont se perdre tous les désespoirs et où se lave toute la jeunesse de l'affreuse crasse d'adolescence. Voilà, c'était trouvé par William Chamet, un texte de Marguerite Duras dans Barrage contre le Pacifique, qui te va bien.
C'est parfait.
À toi.
Merci et bravo. Alors, évidemment, je vais, raccorder tout de suite avec cette citation magnifique que Roger vient de nous lire. Ce film que vous allez voir n'est absolument pas consolant. Alors là, en rien, si la séance reste ce lieu d'accueil et de rêverie, ce qui est projeté sur un écran et qui va, d'une manière ou d'une autre, être projeté sur vos écrans mentaux, n'est pas forcément aussi simple que ça, aussi bénéfique et aussi, consolant, disons. Alors c'est vrai que on réfléchit depuis quelque temps à quelques-uns sur ce qu'on pourrait appeler la fonction consolatrice du cinéma documentaire. Vous avez bien sûr compris que ce qu'on appelle cinéma documentaire est en train de devenir une sorte de roc incontournable autour duquel tourne désespérément le spectacle. Et ce qui se passe à Cannes ces derniers temps l'a une fois de plus confirmé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cinéma documentaire qui pourrait nous consoler? Nous consoler de quoi? Nous consoler d'une perte de rapport ou de relation avec ce qu'on appelle le réel, et que le documentaire est censé, mieux que la fiction ou autant que la fiction, nous fournir, et nous fournir avec une série de garanties qui nous rassurent en quelque sorte. Oui, en effet, ce qu'on voit est bien des êtres réels, des gens réels, une société réelle, un décor réel, etc. Alors oui, il faut s'interroger là-dessus, et ce film, ce soir, va nous permettre de nous interroger là-dessus précisément. Alors, je voudrais présenter rapidement ce film qui date de 1970, donc qui se raccorde d'une certaine manière avec les films qu'on a passés la dernière fois, le Classe de lutte, et qui, comme Classe de lutte, pose une question qui apparaît aujourd'hui dans le chemin qu'on a parcouru à grands pas à travers l'histoire du cinéma, en s'appuyant sur la part documentaire du cinéma, une question qui donc s'est tressée peu à peu, qui est celle de ce qu'on pourrait appeler le personnage documentaire. Il est clair pour vous tous, je pense, que le cinéma documentaire raconte des histoires et qu'il met en place des personnages. On a vu dans Classe de lutte, 1968-69, on a vu l'émergence d'un personnage documentaire magnifique, Suzanne Zédé, qui à la fois occupe le film, occupe le terrain, et qui en même temps fait circuler l'idée que le militantisme, l'action syndicale sont des choses allègres, joyeuses et riches. C'est donc l'émergence, l'apparition d'un personnage qui ne doit qu'au cinéma d'être personnage, bien sûr, puisque dans la vie réelle, nous ne la connaissons pas, Suzanne, nous ne la connaissions pas à cette époque-là, et donc nous n'avons aucune idée de ce qu'elle pouvait faire ou pas faire. Il se trouve que dans le film, elle fait tout ça. Bien. Alors, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, cette émergence du personnage documentaire n'est possible, ne se réalise véritablement qu'à partir du moment où nous avons affaire au cinéma synchrone, à la possibilité d'enregistrer, de restituer la parole des sujets, la parole des personnes réelles, des hommes quelconques et des femmes quelconques du cinéma, d'enregistrer leur parole à eux, hein, et de la restituer donc dans des films. Cette possibilité, je l'ai dit, je le redis pour que ce soit bien clair, elle est datée historiquement. Elle date précisément de 1960 et on peut dire que le film qui ouvre cette porte-là, dans laquelle tout le reste du cinéma pratiquement va s'engouffrer, ce film, c'est donc Chronique d'un été, Rouche et Morin, 1960. Avant ce film, il était difficile, voire impossible, d'enregistrer en synchrone la parole du tout venant, de l'homme quelconque ou de la femme quelconque, tout simplement parce que les moyens d'enregistrement étaient lourds, inadaptés, et que c'était surtout dans les studios, enfin essentiellement dans les studios de cinéma, qu'on pouvait enregistrer la parole. Alors, la parole de qui? La parole des acteurs, la parole des comédiens. Et quand je dis parole, le mot ne convient pas. Des dialogues, en fait. Des dialogues écrits par des auteurs et dits de manière plus ou moins forte, belle, par des comédiens. Alors, le cinéma parlant, donc, s'est cantonné pendant de 1928-29 à 1960, donc pendant une longue période de temps, le cinéma parlant s'est essentiellement déroulé dans les studios avec des comédiens. Donc la parole du peuple, puisque c'est comme ça qu'il faut la nommer, la parole du peuple n'était pas enregistrable ni transmissible. Et il a fallu la mise au point laborieuse, d'ailleurs, par M. Coutant et Jean Rouche, qui a collaboré avec lui étroitement, la mise au point de ce système permettant d'avoir synchronisme entre la bande son et la bande image. C'est à ce moment-là qu'on a pu sortir des studios, aller filmer n'importe où, dans les rues, dans les écoles, etc. Et que donc on a eu accès à une parole qui n'était plus celle des auteurs ou celle des dramaturges, ou celle des dialoguistes, mais qui était la parole de chaque personne filmée, avec ce que j'ai également souligné à de nombreuses reprises au cours de ces rencontres que nous avons eues, le fait que, et là aussi c'est quelque chose de peut-être consolateur, le fait qu'il y avait une sorte d'unité, de relation nécessaire et suffisante entre l'histoire de cette personne, sa biographie, sa vie, sa parole en tant que subjective, et puis son corps, et puis son identité, tout ça formant un tout, d'une certaine manière, un tout relativement infrangible, très solide. Vous allez voir cette hôtesse de bar, c'est bien elle dont il s'agit, c'est bien sa parole qui est restituée. On est dans une confirmation des éléments qui sont au fond liés les uns aux autres. Voilà. Alors c'est très important parce que cette unité du sujet parlant, du corps parlant filmé, hein, comme je dis, cette unité s'impose en 1960 et qui va devenir, d'une certaine façon, qui va ouvrir une nouvelle dimension de l'être cinématographique, une nouvelle catégorie esthétique à l'intérieur du cinéma, est travaillée par le cinéma. Et le cinéma constitue cette unité est aussi ce par quoi elle se divise ou se brise. Et c'est ce à quoi nous allons assister dans ce film tout à fait étonnant, à la fois l'émergence d'un personnage très fort, très, très étrange aussi, et même un peu effrayant, disons-le, avec lequel il est difficile de se mettre d'accord. Et cette difficulté, évidemment, fait résonner d'une certaine manière la place du spectateur, c'est-à-dire notre place à tous spectateurs devant ce film, qui n'est pas une place tranquille, vous allez le constater. Mais en même temps, évidemment, cette émergence exprime une puissance, hein, une puissance de la parole, une puissance du corps, qui n'avait pas d'exemple, ou peu d'exemples auparavant, dans le cinéma. Alors je voudrais également donner une clé pour ce film, mais insister sur l'originalité extrême de ce travail d'Imamura, puisque non seulement, vous allez le voir, le personnage de l'hôtesse de bar se constitue, sa vie, elle la raconte, ses pensées, elle les dit, son monde nous apparaît, nous sommes d'une certaine manière à l'intérieur de la tête du personnage. Enfin, ce qui définit un personnage, c'est que le spectateur a accès à son intérieur, évidemment. C'est ça que le cinéma filme des corps, mais transmet des états d'âme, des sentiments, des émotions, donc toute une partie de choses qui viennent du sujet. Alors le sujet, là, en l'occurrence, n'est pas un sujet, comment dire, apprêté par la fiction, mais un sujet qui naît lui-même de l'opération cinématographique. Et donc l'originalité du film serait constituer une sorte de dialogue impossible entre l'histoire du Japon et l'histoire de l'hôtesse de bar, qui à la fois se recoupe et en même temps se disjoigne. Et donc le spectateur de ce film est conduit à opérer sans cesse ce type de va-et-vient, d'oscillation entre concordance et discordance. Et donc du coup, l'exposition du personnage se déploie sur une scène beaucoup plus complexe que celle que, à la limite, la fiction pourrait déployer. Et on a peu d'exemples de ça dans le cinéma, comment l'histoire d'un homme ou d'une femme en l'occurrence, à la fois est raccordée à l'histoire d'un pays, à l'histoire d'un pays qui est lui-même, histoire qui est elle-même problématique, évidemment, et comment en même temps cette relation qui va être fabriquée par le film pose mille questions et pose sans cesse une question qui pour moi est centrale et qu'on pourrait définir très simplement, puis je m'arrêterai là, comme l'autonomie du personnage à l'intérieur du film. Voilà. Ce qui caractériserait le personnage documentaire, c'est que au fur et à mesure que le procès du film se déroule, que le tournage du film se déroule, que la fabrication du film se développe, au fur et à mesure, ce personnage prend une autonomie qui peut aussi menacer le film. Voilà, qui se retourne en partie contre le film. Et on pourrait, de manière schématique, dire que le film est une sorte de mise en cadre du personnage. Il s'agit de le cadrer, essentiellement, de le filmer en le cadrant, et que le personnage sort de ce cadre, ou tente en tout cas d'en sortir, et que donc une sorte de lutte sourde, que vous allez voir à l'œuvre dans le film, se déploie entre ce qu'on pourrait appeler la mise en scène documentaire et le personnage documentaire qui à la fois se plie à cette mise en scène, en a besoin pour se constituer, s'en sert pour se constituer, et en même temps, par beaucoup de côtés, échappe à cette mise en scène. Alors c'est cette force, cette capacité plutôt de fuite du personnage dans un cadre qui pourtant le constitue, que je trouve vraiment passionnante et qui, pour moi, constitue une des clés, une des ressources principales du geste cinématographique. Donc nous allons voir ce film et puis je tenterai ensuite de vous en donner quelques lectures. voilà, c'est un film assez étonnant, il faut bien le dire, mais... Et je pense qu'on n'en fait pas le tour si facilement. Je vais laisser ceux qui veulent sortir s'aérer le faire et puis on va essayer de parcourir quelques pistes de ce labyrinthe. Alors je voudrais, pour commencer, relever un trait d'écriture qui caractérise ce film d'une manière constante. C'est le fait que, vous l'avez forcément remarqué, l'héroïne, le personnage principal, est constamment cadrée, recadrée, découpée dans sa parole même, par une série d'interruptions, de coupes, de raccords, un découpage qui fait qu'il y a peu de fragments, peu de moments où elle parle en continu. Et parfois, il y a des choses tout à fait étonnantes, comme elle commence une phrase dans un plan et elle le termine dans un autre plan, ce qui nous pose des problèmes de logique et de pratique, tout simplement, parce que faire deux plans, c'est travailler sur deux instants différents, sur deux moments différents, et on n'arrive pas à comprendre, sauf s'il y a plusieurs caméras, bien sûr, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas, on n'arrive pas à comprendre comment on peut commencer une phrase dans un cadre et la terminer dans un autre cadre. Donc je constate d'abord, pour essayer de m'orienter dans ce labyrinthe, je constate d'abord un nombre incroyablement grand de plans différents sur cette hôtesse de bar, dont je crois qu'elle s'appelle Emiko, en tout cas c'est le nom qui est relevé dans le film. Et je me demande à quoi rime ou à quoi sert cette fragmentation, cette démultiplication des approches successives d'une parole qui, pourtant, ne cesse presque pas d'un bout à l'autre du film, qui accompagne le film presque constamment. Et donc, le cinéma direct, le cinéma synchrone dont je parlais dans ma présentation et qui est un des motifs de nos séances, là, trouve une sorte de limite, puisque, oui, bien sûr, il y a des moments synchrones, il y en a beaucoup qui ne le sont pas, il y a même des moments qui sont carrément désynchrones, c'est-à-dire où on voit le personnage ne pas parler et où on entend quand même sa voix. Je rappelle d'ailleurs que le début du film commence par un désynchronisme radical, si j'ose dire, puisqu'on voit Ibamura lui-même en train de fumer au téléphone, et puis il ne parle pas, mais on entend parfaitement ce qu'il dit. Et ce qu'il dit n'est pas absolument sans intérêt, puisque c'est le contrat qui va lier l'hôtesse de bar et le cinéaste qui est en train de se nouer. J'observe au passage, c'est important, que le film est présent, enfin le film en tant qu'opération est présent tout au long du film. Et donc, avec le cinéma documentaire, enfin ce qu'on appelle cinéma documentaire, on a une inscription du travail du film dans le film. Hein, le dehors du film est inclus dans le film, puisqu'on voit, alors on voit beaucoup les micros dans ce film, mais on entend bien sûr la voix du cinéaste qui pose des questions et qui dialogue avec l'hôtesse de bar, mais on a aussi ce début, ce prologue où se met en place un tournage de film avec signature d'un contrat, rôle de la mère, déjà comme agent de sa fille. Tous les fils apparaissent là. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que ça apparaît comme une opération cinématographique. Donc la question du cinéma est en quelque sorte inaugurale. Et d'une certaine façon, ce que nous allons voir, c'est comment le cinéma, que peut faire le cinéma avec un personnage comme celui-là. Alors bien sûr, lui donner le champ libre, le faire exister, d'une certaine manière, oui, lui donner une forte puissance, et c'est ce qui se passe, bien sûr. Mais d'un autre côté, et c'est là-dessus que je rejoins les deux observations que je viens de faire, d'un autre côté, évidemment, par cette fragmentation, par cette démultiplication des axes, des cadres, des gros plans qui sont très variés, très différents. Alors, on retrouve bien sûr les mêmes qui reviennent, mais en même temps, il y a un système de variation très, très constant. Alors, en même temps, au moment même où le personnage se constitue, il est aussi démantibulé ou désarticulé, il est divisé, il est éparpillé d'une certaine manière. On retrouve un principe de fragmentation dont j'avais déjà parlé à propos de Classe de lutte et qui ici trouve alors vraiment une expansion vertigineuse. Bon, donc pourquoi cet acharnement frénétique, on pourrait dire, à cadrer, recadrer, décadrer, couper, reprendre, changer de plan à l'intérieur même d'une phrase, etc. Tout ça ne va pas de soi. Hein. Il y avait des manières beaucoup plus simples de faire le film, je suppose. Enfin, on peut l'imaginer. Et donc, a été choisie là une sorte de rhétorique de la fragmentation qui, à elle seule, nous dit quelque chose. Voilà. Alors, ce qu'elle nous dit, à mon sens, hein, là, c'est une interprétation qui a toutes les limites d'une interprétation, elle dit deux choses. Elle dit d'abord que ce personnage est disséminé, hein, qui les sème, qu'il occupe tous les axes, tous les angles, tous les cadres, toutes les possibilités de filmage d'une certaine manière, et donc qu'il y aurait dans ce personnage une énergie qui mettrait au défi, enfin qui irait jusqu'à tenter d'épuiser la capacité du cinéaste à la filmer. Mais d'un autre côté, tout à fait réciproquement, on peut dire que se manifeste par cette fragmentation une rage de filmer, enfin une sorte de frénésie, d'acharnement pour tenter de la tenir, j'allais dire de la coincer, mais enfin il y a un peu de ça, c'est-à-dire de la tenir, de l'acculer dans les coins de ce bar. Voilà. Bref, je lis dans cette multiplication des plans, et notamment des gros plans sur le visage de Emiko, je lis un rapport de force, une sorte de lutte sourde, et parfois éclatante aussi, où quelque chose du corps filmé, à la fois, évidemment, est filmé, donc est inclus dans le cadre, dans le plan, dans le travail du cinéaste, et où en même temps, l'effort, l'acharnement, l'insistance du cinéaste à multiplier les axes et les plans me donne aussi le sentiment que quelque chose d'insaisissable est en face de Luby. Et d'une certaine manière, il me semble qu'en voyant ce film, on est confronté à la dimension insaisissable d'un personnage documentaire. Voilà. Emiko, et vous l'avez compris, n'est pas un personnage simple. Sa vie, déjà, est assez chargée. Mais surtout, elle en parle d'une façon qui est sidérante. Hein. Je revois ce film pour la quatrième ou la cinquième fois, et chaque fois, je suis stupéfait par ce qu'elle dit, alors, qui est à la fois d'un grand cynisme, mais en même temps d'une grande franchise, on pourrait presque dire d'une honnêteté totale, enfin, si le mot honnêteté a encore un sens dans ce contexte et dans cette situation où on est quand même dans le monde des affaires, comme dit la mère et comme répète la fille, on est dans les affaires. Et donc, au milieu de ce chaos d'une vie à la fois prise dans la répétition, mais elle le dit elle-même. Bon, bien sûr que la Soka Gakkai lui annonce qu'elle est prise dans la répétition, mais en même temps, elle le dit, et puis elle dit aussi comment elle en sortira de la répétition, hein, en passant du corps japonais au corps américain. Évidemment, on brise quelque chose, là, et on n'est plus tout à fait dans la répétition, même si c'est toujours des marins, des hommes de bar, etc. Alors, ce personnage est un personnage qui fuit d'une certaine manière, il me semble. Enfin, en tout cas, pour de ma place de spectateur, je suis, aux prises avec une difficulté de saisir. Hein, saisir où elle en est exactement. Alors, bien sûr que cette difficulté, on peut évidemment l'analyser et même la rapporter à la construction du film, qui est une construction très complexe, vous l'avez évidemment vu, bon, et où l'histoire d'Emiko se mêle d'une façon extrêmement difficile à cerner à l'histoire du Japon. Voilà. Alors évidemment, bien sûr, si on n'avait que Emiko racontant sa vie, je pense que nous serions face à un personnage que nous pourrions peut-être davantage maîtriser, je mets le mot entre guillemets, en tout cas, que nous aurions davantage à notre portée, et avec lequel nous pourrions éventuellement construire une de ces relations que le spectateur de cinéma construit presque toujours avec les personnages qui sont sur l'écran. Là, la relation est difficile à maintenir. Alors, elle est difficile à maintenir à la fois parce qu'il y a ce travail de fragmentation, à la fois parce que Emiko est un personnage relativement insaisissable et qu'il est très difficile de la prendre au piège. Et pourtant, elle le dit elle-même, elle tombe sans cesse dans les mêmes pièges. Donc, on a là une sorte d'aveu ou de confession impudique. Hein, c'est un film très impudique, vous l'avez bien vu, une confession impudique qui en même temps ne s'accompagne pas véritablement d'un sentiment de regret ou d'une honte ou d'une faute qu'il faudrait se faire pardonner. Alors peut-être qu'on n'est effectivement pas en Occident mais en Orient, comme c'est dit aussi à deux ou trois reprises, et qu'en Orient, la culpabilité chrétienne a moins sa place peut-être que chez nous. Toujours est-il qu'elle échappe, cette femme, elle échappe à beaucoup des grilles morales que nous pourrions avoir à projeter sur elle. Et de ce point de vue-là, elle est aussi insaisissable. Mais là, je raccorde avec ce que je disais tout à l'heure, ce caractère insaisissable et du personnage et de la parole du personnage tient bien sûr au principe de fragmentation qui fait que cette parole échappe au plan. Hein. Elle n'est pas enfermée dans un plan, elle n'est pas cadrée dans un plan, elle traverse toutes sortes de plans. Alors déjà, ça lui donne une sorte de force et de liberté très grande, mais aussi, bien sûr, alors cette fragmentation est accentuée d'une manière très, très, très étrange, très troublante, par le fait que cette parole va circuler sur les images d'actualité de l'histoire du Japon. Alors là, il devient difficile de décrire la série d'opérations qui sont en jeu dans le film, et vous me pardonnerez de n'y arriver que partiellement, parce que c'est très complexe. Nous avons toutes sortes de cas de figure. Il faudrait prendre ce film et l'étudier à la table de montage pour faire une sorte de topographie des relations entre parole et image. Et on aurait du mal d'ailleurs, hein, ce serait complet. Pourquoi ? Parce que à de nombreuses reprises, nous voyons des images de l'histoire du Japon, bien entendu, Mais la parole des Micos est étrangère à ces images, si on peut dire, puisqu'elle raconte sa vie à elle, ses histoires d'amour à elle. Il y a l'épisode de Tokyo qui est formidable, où on voit sur l'écran des manifestants se déchaîner, la police, etc. Et puis elle qui raconte comment elle allait dans un petit hôtel avec son amoureux étudiant, etc. Bien. C'est souvent comme ça, mais c'est pas toujours comme ça. Et parfois, y a un raccord, si j'ose dire, hein, entre évidemment l'épisode de la cérémonie du mariage du prince héritier est un moment où Emiko parle de ce qu'elle voit et donc de ce que nous voyons aussi. Et là, d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il y a raccord ou pertinence de la relation entre paroles. Bande parole, si j'ose dire, et bande image. Et puis, à d'autres moments, elle parle aussi de politique ou de société. Et on voit des choses qui concernent, en effet, la vie politique du Japon. Alors, c'est pour ça que, évidemment, du coup, cette parole devient, au fond, insituable. Hein. Elle n'est pas assignable à une place d'énonciation particulière. Et sa relation avec aussi bien les plans du corps parlant ou du visage parlant des Miko que la série très étrange des images d'actualité déterritorialise, si j'ose dire, cette parole et en font une sorte de parole errante quoi, qui peut aller avec tout et parfois ça coïncide et parfois ça ne coïncide pas. Donc tout un jeu de jonction et de disjonction se met en place dans ce film. Alors, et là je reviens à ce que je disais au début, c'est nous, spectateurs, qui sommes au fond le lieu de ces jonctions et disjonctions qui rendent précisément notre rapport à ce personnage infiniment, infiniment complexe et troublant, et que nous ne pouvons pas en faire le tour dans la mesure où elle-même est instituée, insituable dans ce tour historique qu'elle fait de l'histoire du Japon. Alors voilà, une première chose. Alors maintenant, une deuxième chose nous frappe, qui vous a frappé évidemment, c'est comment, du côté de la parole de l'hôtesse de bar, comme du côté des images d'archives, se mettent en place des chaînes signifiantes. Voilà. Alors ces chaînes signifiantes, et j'allais oublier évidemment le troisième brin qui compose cette étrange tresse, le brin en question, c'est le brin des images de boucherie, hein, bien sûr. Image de boucherie, par quoi le film commence. Hein, on abat des animaux, des bœufs, on les dépèce, etc. Et bien sûr, cette chaîne qui ne va plus qu'apparaître que peu, hein, deux ou trois fois dans le reste du film, est évidemment constitutive, puisque à travers elle s'établit une liaison qui va être, elle, en revanche, très active tout le long du film, entre la chair, le sang, la violence, les hors-castes, c'est-à-dire la discrimination sociale, et puis l'argent. Hein, voilà. Alors, je rappelle que l'argent commence le film en quelque sorte et donne son ton à l'ensemble, hein, puisqu'il est question de l'argent que doit toucher l'hôtesse de bar pour jouer dans le film. Alors donc se met en place une chaîne signifiante qui, elle, va circuler aussi bien dans le récit que l'hôtesse de bar fait de sa vie, de ses aventures, de ses relations avec les hommes, avec ses parents, etc., où donc, je le redis, argent, sexe, amour, puisqu'il y en a aussi bien sûr, maternité, enfant, relation filiale, filiation, et violence, hein, puisque les hommes que cette hôtesse de bar a rencontrés, en tout cas les hommes japonais, la battaient. Hein, et puis il a fallu que les Américains arrivent pour qu'elle ne soit plus battue. Mais de l'autre côté, du côté de la bande d'actualité, enfin de ces images d'actualité, bon, on est évidemment stupéfait également par la violence incroyable qui se manifeste, qui est à la fois une violence politique et puis une violence, je dirais, fasciste, enfin, qui se perçoit constamment. Voilà, bon, je dois avouer une relative ignorance de l'histoire du Japon, mais là, ce qu'on en apprend ou ce qu'on en comprend est assez soufflant quand même. Voilà, quelque chose. On voit bien que cette société est fondée sur une violence très grande, et que cette violence, bon, C'est évidemment au plan social, puisqu'il y a ces, cette série, bon, ça commence par Hiroshima quand même, hein, ce qui n'est pas absolument rien. Puis après, vous avez la répression féroce qui s'abat d'abord sur les communistes, ensuite sur les socialistes, etc. Bon, donc, d'une certaine façon, la mise au pas, hein, la mise au pas de la société japonaise, qui, au moment où elle s'émancipe de la tutelle américaine avec le traité de sécurité, bah, à la fois se remilitarise, hein, donc revient au motif de la guerre, et à la fois s'américanise. Hein, c'est ce double jeu. Alors voilà, donc du côté de la chaîne des images d'archives, des actualités, on a cette relation très forte entre la violence sociale, le sang, hein, qui est un des motifs récurrents de toutes ces séquences. Et puis, il y a aussi ces séquences incroyables sur l'interdiction de la prostitution, sur les bagarres de rue entre les marins et la police militaire. Enfin, bref, ce monde-là est dans les bandes d'archives, mais il est aussi, bien sûr, dans la parole de l'hôtesse de bar. Et là, il y a une jonction qui s'opère, on pourrait dire une jonction de type association, hein, quelque chose s'associe inévitablement entre les mots qu'elle utilise pour décrire son propre trajet dans la vie, et puis ce qui se passe autour d'elle, dont elle est en grande partie ignorante, et que nous allons, nous, être amenés à associer avec sa vie. Voilà. Alors ce passage, disons, du public au privé, ou de l'intime au groupe, mais avec les mêmes signifiants, est quelque chose qui est une opération vraiment, je trouve, très, très étrange et très forte, puisque ce sont exactement les mêmes signifiants qui circulent d'un côté et de l'autre. Voilà. Alors, peut-être que l'enjeu de cette construction, à la fois très, très étonnante et très mystérieuse, et dont il est difficile, en tout cas à mon échelle, à mon niveau, de rendre compte d'une manière parfaitement précise, l'enjeu peut-être est précisément celui-là, de constituer des chaînes signifiantes qui vont raconter à la fois l'histoire du Japon au sens du corps social et à la fois l'histoire du corps d'Emiko, qui est une histoire de corps, qui est évidemment est en résonance ou en liaison, ou parfois très nettement avec l'histoire de la société japonaise. Alors, évidemment, on ne peut pas ne pas voir, sentir, comprendre dans le cours de la projection que le chemin étrange que prend l'hôtesse de bar est d'une certaine façon parallèle ou symétrique ou analogue à ce qui se passe sur le plan du Japon tout entier. Hein, la présence des Américains, par exemple, leur présence-absence, hein, le fait qu'ils ne partent pas tout à fait, on voudrait les faire partir davantage, mais ils sont toujours là. Il y a ces plans incroyables de l'arrivée du porte-avions nucléaire, d'une part, et du sous-marin nucléaire, d'autre part, qui entrent dans le port en question. Et là, on ne peut pas ne pas voir dans ces entrées de monstres militaires et guerriers, et en plus nucléaires, évidemment, on ne peut pas ne pas y voir un viol ou une violence, en tout cas, réalisée sur le corps du Japon. Bon, et c'est ainsi que beaucoup de Japonais le perçoivent, puisqu'il y a ces manifestations très violentes qui, évidemment, sont réprimées tout aussi violemment. Donc, il y a un parallélisme, disons comme ça, un parallélisme se constitue peu à peu entre le destin de l'hôtesse de bar, qui va être de récuser le corps japonais, de le répudier, hein, de divorcer avec le corps japonais pour choisir le corps américain. Bon, comme elle le dit dans cette séquence absolument incroyable où elle refuse de voir elle voit sans les croire les photos du massacre de, je ne sais plus comment il s'appelle, Milai. Les Américains sont des gentlemen. C'est une phrase qu'elle dit au début du film déjà et qui va revenir donc à de nombreuses reprises. Et voilà. Et donc les Japonais ne sont pas des gentlemen et les Américains le sont. Et du coup, y a là à la fois une opposition avec ce qui se passe dans l'histoire sociale du Japon où les Américains ne sont pas spécialement des gentlemen et où on voit d'ailleurs, ça, je trouve cette séquence magnifique, le dirigeant du syndicat qui lit en pleurant la déclaration de MacArthur interdisant la grève. J'ai dit, bon, ça, voilà, on voit bien que les Américains ne sont pas des gentlemen et qu'ils imposent leur férule d'une manière extrêmement nette et violente. Bon, l'interdiction du Parti communiste, etc., tout ça va de soi. Et au même moment, le chemin des Miko, lui, va être celui de préférer le corps américain au corps japonais, l'homme américain à l'homme japonais. Je dis corps, mais c'est homme qu'il aurait fallu dire, bien sûr. Et donc, voilà, ce parallélisme est à la fois inverse, d'une certaine manière, et en même temps cohérent, puisque, au fond, les Américains ne quittent pas le Japon. Et le retour du sous-marin et du porte-avions le dit bien clairement. Les Américains ne quittent pas le Japon. Et non seulement ils ne quittent pas le Japon, mais le Japon devient leur allié. Et en plus, il est engagé avec les Américains dans la guerre de Corée. Donc, cette relation persiste, perdure, au moment même où le chemin des Miko est un chemin qui va vers les États-Unis, en quittant carrément le sol japonais. Bon, c'est intéressant parce qu'elle revient au Japon pour faire le film. Et elle repart une fois le film fini. Donc, le film est une parenthèse dans la vie américaine de l'hôtesse de bar qui n'est plus là en fait hein, et qui ne revient dans son bar et sur les lieux de sa vie que pour le film. Voilà en gros les éléments qui me frappent. Alors, comment que faire de tout ça? Déjà, je le disais en introduction, passer presque 2 heures avec un personnage dont on ne sait pas quoi faire à l'arrivée, est quand même une expérience forte. Voilà. On ne pourrait pas en dire autant de beaucoup d'autres personnages que le cinéma nous a présentés ici et là. Voilà un personnage qui est déroutant, littéralement, qui laisse sans voix, qui excède, hein, qui est marqué par l'excès, bien sûr, mais qui excède aussi la capacité que nous avons de la juger, hein, de l'approuver ou de la désapprouver, puisque elle présente au fond une série de faces, de facettes qui à la fois sont très cohérentes et en même temps se protègent ou écartent toutes les contradictions. Voilà, il est difficile d'entrer en lutte avec elle. Quand elle termine ce film, un peu incité par le réalisateur, bien sûr, mais quand même, quand elle termine ce film sur l'idée qu'il faut être amoureux tout le temps et qu'elle sera amoureuse jusqu'à sa mort, je veux dire, d'accord, hein, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Alors voilà, on est dans ce balancement, dans cette hésitation, dans cette difficulté. Et peut-être que c'est ça qui est intéressant, et peut-être que c'est la forme, cette forme extrêmement étrange, extrêmement remarquable du film, est précisément ce qui favorise ou, comment dire, rend possible notre suspens. Voilà, laisser le jugement en suspens, ne pas aller totalement ni à condamner ni à approuver est impossible, condamner devient de plus en plus étrange et difficile. Et donc cette forme éclatée, cette série, cette fragmentation, cette délocalisation, ces passages de la parole sur des images qui ne l'accueillent pas ou qui parfois l'accueillent, enfin tout ce que j'ai tenté de décrire et que je ne vais pas répéter, bon, tout ça crée pour moi, spectateur, une situation difficile à déchiffrer. Voilà. Alors, disons que le pari du cinéma documentaire, enfin de ce qu'on appelle le cinéma documentaire, quand il constitue des personnages, c'est de donner, de prétendre donner des personnages difficiles à déchiffrer, c'est-à-dire qu'ils seront plus complexes à la fin du film qu'ils ne pouvaient l'être au début. Voilà. Là, il y a quelque chose pour moi qui est important. Pourquoi ? Parce que évidemment, je le disais tout à l'heure, une lutte est engagée ou semble être engagée entre celui qui fait le film et celle qui joue dedans. Cette lutte fait que, d'une certaine manière, quelque chose de ce personnage reste inentamé. En dépit de l'acharnement, je le répète, hein, que le réalisateur met à la filmer, à la refilmer, toujours en gros plan, parfois de profil, parfois de trois quarts, en contre-plongée, en plongée, dans tous les axes. En dépit de cet acharnement, quelque chose reste insaisissable, c'est un mot que j'ai utilisé plusieurs fois, on pourrait dire inentamé. Alors voilà qui me paraît important, puisqu'on pourrait d'une certaine façon définir la mise en scène cinématographique comme une opération de dressage des corps. Dans de très nombreux cas, y compris dans les films que nous aimons, les corps sont dressés. Les corps qui jouent, les corps jouants, les corps filmés sont dressés à faire ceci ou cela, bien ou mal, le mieux possible. Ce dressage peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois parfois. Et donc, d'une certaine façon, l'hypothèse d'un dressage général des corps est posée par le cinéma. Voilà. Comme elle est posée par le théâtre, comme elle est posée par toute mise en forme. Il est bien entendu que mettre en forme, mettre en scène, mettre en image, c'est rendre la chose possible, praticable, et donc par conséquent, faire en sorte que tout se case à peu près, tout rentre à peu près, tout coïncide à peu près. Quand je dis à peu près, c'est parfois plus qu'à peu près, puisqu'on connaît bien une certaine manie ou une certaine folie. Je pense aux centaines de prises faites par Chaplin, par exemple, pour que les choses fonctionnent non pas à peu près, mais très précisément. Voilà. Alors, et Chaplin n'est pas le seul. Beaucoup d'autres, sans aller peut-être aussi loin, ont mis en place, appelons ça des formes de dressage très, très perfectionnées, très performantes. Alors, ce qui m'intéresse dans ce film, et plus largement dans d'autres aventures documentaires, c'est que le corps filmé du non-comédien, qui se prête clairement au jeu du film, de manière explicite, le contrat, les micros, le dialogue avec le réalisateur. Donc les conditions, si vous voulez, d'une discipline du corps filmé sont présentes et pourtant ça résiste. Voilà. Alors je trouve que là, il y a quelque chose d'essentiel pour nous à penser aujourd'hui, pas seulement dans notre rapport au cinéma en général, mais par rapport à ce qui se passe dans nos sociétés. Alors voilà que si on s'approche de quelqu'un de réel, et si on essaie de le saisir, quelque chose va rester insaisissable, ou en tout cas difficile à saisir, ou en tout cas problématique. Eh bien, je trouve que ça, c'est un... Comment dire, c'est, oui, moi, ça me fait un bien fou. Je me sens plus libre devant cette difficulté de saisir. Et évidemment, la logique qui est à l'œuvre ici est une logique de l'impossibilité ou l'impuissance à discipliner le corps filmé. Et je dirais que du côté, là c'est du côté de la réalisation, mais du côté du personnage, de cette hôtesse de bar, qui tout est clair, elle accepte le film, elle sait combien elle est payée, elle joue le jeu, elle accepte tout. Elle est filmée pendant des semaines, je ne sais pas combien ça a duré, mais longtemps. Et pourtant, ça échappe quand même. Voilà. Alors c'est ce reste ou cette part non acclimatée, non apprivoisée, qui reste sauvage, la part sauvage ou la part maudite, si on veut utiliser cette notion, qui me paraît importante dans la mesure où ça nous permet d'avoir avec le cinéma un rapport qui n'est plus tout à fait celui de la maîtrise. Voilà. On voit que, et dans ce film, ça me paraît tout à fait manifeste, la puissance créatrice de Imamura consiste à rendre la maîtrise impossible. Voilà. Et entre autres, par cette fragmentation dont j'ai parlé, et entre autres, par ce décalage ou recalage des paroles de cette femme sur les images du Japon. Voilà. Là, quelque chose n'est plus maîtrisable. Et donc, la part de l'altérité, si on veut, l'altérité en tant que sauvagerie non toujours résolue, non toujours reprise en charge, est sauvée. Alors nous savons que le cinéma globalement est une machine à apprivoiser l'altérité. C'est ainsi qu'on peut le présenter très sommairement d'un point de vue anthropologique, puisque je cite souvent ce mot de Bazin qui dit quand on filme l'autre, il n'est plus tout à fait autre. Bazin prenait l'exemple d'une troupe de cinéastes allant filmer une tribu anthropophage, et il disait de manière très drôle, ou bien il y a un film et les anthropophages n'en sont pas, ou alors il n'y a pas de film. Bon voilà, c'est, en gros, ça se passe comme ça. Alors si il y a film, et là il y a film, alors on pourrait donc en induire, dans la logique basinienne, que s'il y a film, c'est parce qu'on a apprivoisé l'autre. C'est parce que l'autre est venu accepter, s'est laissé conduire, alors avec de l'argent, avec un contrat ou pas d'ailleurs, avec son désir tout simplement, s'est laissé conduire dans un film et donc a consenti à renoncer à une part de son altérité et en tout cas à intégré ou associer cette altérité au geste cinématographique qui du coup apparaît comme un geste de rassemblement, un geste pas dire de communion, mais enfin un geste qui unifie les choses. Voilà. Alors là, dans ce film, je vois quelque chose qui résiste à ça. Voilà. Et je trouve que, du coup, le cinéma documentaire apparaît dans une dimension, je dirais, politique, hein, qui est essentielle, c'est qu'il y a toujours de l'autre, il y a toujours de l'altérité. Nous ne sommes pas dans le cinéma qui nous montre une altérité toujours apprivoisée, ou presque toujours apprivoisée, ici nous montre une altérité non consommable. Voilà. Alors sortons en effet de la consommation. Et à vous de parler. Va vous être tendu par Catherine. Oui, là-bas.
Merci. Bonsoir. Est-ce qu'on sait comment il a choisi cette personne ?
Non, sincèrement, je n'ai pas d'éléments précis sur la manière dont le film a été fait. Par exemple, je m'interroge toujours sur cette multiplication des axes qui suppose qu'on fasse des prises différentes, donc qu'on passe du temps entre une prise et une autre, donc qu'on fasse redire la phrase qui est dans un plan, dans le plan suivant. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, etc. Il y aurait une enquête à faire là-dessus que je n'ai pas faite, hein, je l'avoue humblement. Mais si vous voulez, je ne l'ai pas faite à la fois parce que je ne l'ai pas faite par paresse, disons, mais aussi je ne l'ai pas faite parce que, pour ceux qui ont suivi ce séminaire depuis quelques séances, il doit vous apparaître que le principe que j'essaie de mettre en œuvre, c'est au fond celui du spectateur. Bon, le spectateur ne dispose pas d'une ligne directe avec Imamura et ne peut pas lui poser des questions du genre combien de temps ça a duré, combien d'argent vous avez payé, est-ce que vous avez choisi entre plusieurs hôtesses ou est-ce que c'est celle-là qui s'est imposée d'abord, est-ce que vous avez vous-même une histoire d'amour avec elle, pourquoi pas. Donc on pourrait poser toutes ces questions au réalisateur, mais le spectateur ne peut pas les poser. Et donc ma méthode, si on peut parler de méthode, disons mon approche analytique, part de l'impossibilité de savoir autre chose que ce que le film nous montre. Voilà. Et bon, là, il se trouve que le film nous en montre beaucoup. Et donc, on a de quoi, comment dire, combler notre force questionnante.
Je pense que le film est très mis en scène et que toutes les scènes ont été répétées, y compris avec les enfants et avec une partie de la famille, et notamment la scène de la fin. Mais ce n'est pas là-dessus que je vais intervenir, c'est oui. Juste c'est pour expliquer en quelques mots ce que je comprends du film, que vous dites mystérieux. Le Japon, pour la majorité des gens, c'est l'adoption du modèle américain sur le plan politique après 1945, et puis le développement industriel et commercial avec les grandes réussites qui vont arriver dans les années 70. Qu'est-ce que fait Imamura ? Ça, il l'évacue totalement de l'histoire du Japon, qui ne va être que violence, sauf l'aspect du prince, du roi, en fait, du dieu, de l'empereur, qui est en fait la démonstration pour les Japonais que l'empereur responsable de la guerre est remis en place par les Américains. Mais qu'est-ce qu'il fait de fondamental ? C'est qu'il déplace les questions du commerce, du développement, de l'intérêt et de la politique de jouissance sur la femme, sur celle qui témoigne. C'est-à-dire tout ce qu'on croit comprendre du Japon, il l'évacue de tout ce qu'il va montrer. Il ne va montrer que des images qui sont très vraies, très réelles, sur lesquelles on peut revenir, et il le met dans cette femme. Mais, et c'est là où les choses sont très difficiles à supporter pour, disons, la majorité des Japonais, c'est qu'il prend une burakumine, c'est-à-dire quelqu'un qui est membre d'une hors caste, comme il est dit, parce que les burakumines au Japon sont responsables du sang et des ordures depuis très très longtemps. Cette caste, par hérédité, est exclue des Japonais. Il existe au Japon des annuaires qui circulent, c'est interdit, mais des annuaires de nom. Est-ce qu'on peut les repérer par nom, par quartier d'origine, etc. Ce qu'il explique d'ailleurs au début en disant « mon père est débouché », elle hésite, voilà. Donc en prenant une burakumine, c'est-à-dire quelqu'un que les Japonais ne peuvent pas accepter comme Japonais authentique, comme ils excluent les Coréens, etc., il met dans la bouche de cette femme le développement, l'adoption du modèle américain, l'adoption, justement c'est pour ça qu'elle choisit un Américain, de tout ce que les Japonais croient être, pensent être positif, et effectivement qui va produire des richesses, et il montre la violence souterraine, et en même temps tout à fait manifeste.
Explicite. Bon,
alors, en deux mots, je parle. Le Parti communiste est le plus grand parti au Japon, hein, donc dans les années 70.
C'est
simplement,
ouais.
Ce qui est tout à fait intéressant dans son choix d'images, c'est qu'il montre des images collectives en permanence, c'est-à-dire des foules, des masses, des gens nombreux. Et la dernière image, les deux images, c'est le détournement par le Zengakuren japonais, enfin les gauchistes, séparatistes maoïstes qui vont détourner l'avion sur Israël, qui va se terminer en meurtre. Hein, on voit les corps qui tombent et le départ en même temps d'un avion, des Japan Airlines aussi, aux États-Unis. Ils mettent les deux plans en parallèle, voilà, pour montrer la fin d'un mouvement de masse, parce que ce qui va se produire avec le gauchisme japonais, c'est une destruction et au profit de l'extrême droite qui est présente avant, mais qui va réapparaître très fortement dans les années 70 et en fait reprendre l'économie du Japon. Il y a beaucoup, beaucoup de signes comme ça qui devaient parler aux Japonais. Et Imamura était marxiste à l'époque. Il a fait des films qui impliquaient un croisement entre l'histoire du Japon et l'histoire de la... dans les familles, de ce qui se passait sur le plan politique. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne parle pas que d'intérêt, elle parle de la jouissance dans l'intérêt. Ce qui est le fond du capitalisme, on jouit de consommer, même si ça implique exploitation, ça implique dégradation et violence. Bon, beaucoup d'autres choses à dire, mais...
Voilà, mais en tout cas, merci pour votre intervention, qui, je trouve, est à la fois très juste et éclairante. Alors, vous allez d'une certaine manière tout à fait dans le sens que j'ai décrit tout à l'heure, puisque le fait que cette hôtesse de bar soit hors caste, je ne peux qu'intensifier son altérité. On est dans une altérité, là, véritablement rejetée, exclue. Et ce qui m'intéresse, c'est que, en effet, elle est accueillie dans le film, et elle y trouve sa place, bien sûr, mais à l'intérieur même de cet accueil, quelque chose d'irréductible qui tient là à la manière dont le film est fait, bien sûr, et à la façon dont elle-même résiste à cette acclimatation ou à cet apprivoisement. Quelque chose donc d'une altérité non entamée subsiste à travers tout ce qu'on vient de dire. Donc je trouve que ça, c'est politique, profondément. Voilà, parce que c'est refuser, si vous voulez, l'idée que... les choses s'unifient, se pacifient, c'est maintenir l'idée de la division, c'est maintenir l'idée de la lutte, hein, c'est maintenir la contradiction. D'autres observations ? Quand je disais que le film était mystérieux, ce n'était pas par rapport à l'histoire du Japon, c'est par rapport à sa construction, par rapport à sa manière de fonctionner. Moi, c'est ça, le fascia mystère, pour moi, il est là. parce que c'est très difficile à analyser, vous l'avez vu.
Oui, en fait, justement, je voudrais rebondir sur cette histoire de hors-caste parce que c'est vraiment quelque chose qui me semble être fondamental et dont peut-être, que tu as évoqué, peut-être indirectement, sur lequel je voudrais insister, c'est comment il n'y a pas de bon documentaire, non seulement sans qu'il y ait cette altérité, mais qu'il y ait aussi autre chose qui est le désir de la personne filmée. Désir, d'ailleurs, dont on ne saura jamais complètement, mais qui doit toujours être là, c'est-à-dire désir... Alors, je vais le dire d'une manière très schématique, mais qui est d'adresser un message au monde. C'est-à-dire, le film est l'occasion pour la personne, un moment, de dire quelque chose, non pas au cinéaste, mais à travers la caméra, au monde. Et ça, j'ai remarqué ça dans tous les grands films, comme ça, où il y a quelqu'un qui résiste. Je pense à Sabzian, de Close-up de Kiarostami. Je pense au film de Pedro Costa, Vanda. Je pense à L'enfant aveugle de Van der Kuiken. Il y a toujours un moment... la sensation que l'autre filmé y trouve son compte, c'est-à-dire a parfaitement perçu que c'est une chance à saisir. Et je pense que le statut que vous aviez évoqué de cette personne est là aussi en elle, et que ça soit conscient ou inconscient, je dirais, peu importe, c'est là, quoi. Et si c'est pas là, ça marche pas. C'est-à-dire que c'est pas simplement que l'autre doit être autre et reste mystérieux, mais c'est que l'autre a secrètement en lui quelque chose à dire, à transmettre, qui doit rester une sorte de mémoire. Voilà, j'écris mes mémoires à travers l'autre aussi. Et c'est justement parce qu'il y a quelque chose là qui est secret, mystérieux et fort que ce déséquilibre initial du cinéaste filmant l'autre peut se rééquilibrer, peut à un moment être supportable, pour nous aussi d'ailleurs.
Oui, alors évidemment, comment ne pas être d'accord avec ta remarque, Frédéric, sauf que, enfin, à une nuance près que je vais quand même dire, sauf que ce désir de s'adresser au monde, aux autres, aux spectateurs, tous les gens qui entrent dans un documentaire le partagent. C'est pas seulement les personnages extrêmes ou excessifs comme cette hôtesse de bar. Les gens qu'on filme, si n'importe lequel ou laquelle d'entre vous accepte d'être filmé, c'est bien parce qu'il porte avec lui, et je l'ai dit déjà plusieurs fois bien sûr, plus ou moins consciemment, peu importe, le désir de parler aux autres, de se tourner vers les autres, d'être tourné vers les autres, tourné, voilà. Et puis pas seulement vers les autres ici et maintenant, mais vers les autres demain et après-demain, comme disent les Kanaks. Parce que évidemment, la question de la mort...
qui est présente dans ce film d'une manière terrible, cette question est présente dans la tête de tous les gens qui font un film documentaire. Il faut vraiment faire de la fiction pour refouler la question de la mort. Voilà, c'est d'ailleurs une critique féroce que j'adresse à la fiction à travers ces quelques phrases. Donc, évidemment, l'hôtesse de bar, tu as raison de le dire, est travaillée par ça. Je pense que ça fait partie de ses raisons de faire le film, qui ne sont pas seulement financières, bien qu'elle mette l'accent avec plaisir là-dessus, mais qui sont aussi le fait qu'elle porte en effet un message, un discours, un témoignage, une parole, qui va s'adresser au-delà du Japon à beaucoup d'autres, et que de ce point de vue-là, elle va manifester quelque chose de son existence et de l'existence de son monde. En même temps, ça c'est vrai, je dis c'est vrai pour tous, mais en même temps, dans son cas, on voit bien que ça ne suffit pas à caractériser sa présence. Tu l'as dit d'ailleurs, c'est un des éléments qui sont en jeu. Et puis, il y a un autre élément qui est le fait qu'elle garde une certaine conscience. Et au fond, il n'y a pas de plainte chez elle de l'exclusion ou du rejet ou de la discrimination. Et non seulement il n'y a pas de plainte, mais il y a ce passage que je trouve absolument formidable. Alors bien sûr, Imamura, marxiste, ne pouvait être que content d'entendre ça, mais quand elle critique les officiers pour dire que finalement, ce qu'elle préfère, elle, c'est les marraines bases qui sont un peu moins sophistiquées que les officiers auxquels sa sœur s'est destinée. Bon, il y a là un discours de classe, enfin de classe au sens culturel du terme, pas social, mais bon, qui est assez étonnant et qui nous dit tout simplement qu'elle est parfaitement consciente de ce qui se joue à travers sa position. Voilà. Et qu'elle exprime des choix. Elle dit au fond, je suis comme je suis et je préfère. Alors ça, si tu veux, ça vient en quelque sorte biaiser le message. Parce que c'est plus un message universel, du coup. C'est quelque chose qui est plus complexe. Voilà. Elle ne dit pas simplement, regardez comme je suis, nous aussi on a le droit de vivre, enfin ce genre de discours. Elle dit, au fond, je vous emmerde. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. D'autres remarques? Oui, madame? Attendez, on va vous donner un micro parce que, figurez-vous, c'est enregistré. Alors.
Il y a un autre point qui est évoqué, c'est aussi le problème du métissage,
oui,
qui est quand même important, je crois, au Japon, mais peut-être que monsieur peut nous en parler aussi, je ne sais pas.
Alors là je lui donne la parole volontiers parce que je n'en sais rien.
Cet enfant qui est né d'un père noir...
Ce que la mère dit est très beau sur cette petite fille. Je trouve ça, je trouve que c'est un discours là aussi de conscience et de responsabilité. Bon, d'une certaine manière, parcourt le film l'idée que c'est une mère irresponsable et qu'au fond, elle hérite de sa propre mère qui elle-même a été une mère irresponsable, etc. Et que donc, on est dans une chaîne de répétition, dans une boucle de répétition où toutes les mères vont... toutes les filles vont ressembler à leur mère. Hein. C'est ce qui se passe avec les deux filles, d'ailleurs, de l'hôtesse de bar elle-même. Mais en même temps, ce choix de faire un enfant métisse et le soin ou les mots qu'elle dit à son propos, moi je trouve ça très beau et très conscient et absolument pas léger. Voilà. Hein. Vous vouliez intervenir, monsieur ?
Juste pour dire que c'est une base, hein. C'est une base où il y a des Américains. Je rappelle pour les Français qu'il y a eu des bases en France d'Américains. Oui, et Depardieu en parle beaucoup. Oui. Et puis un autre cinéaste qui a fait un film dessus. Moi, j'ai connu une base en Lorraine. Je peux vous dire, ma tante a épousé un Américain, elle est partie aux États-Unis. Donc c'est quand même très limité. Mais je pense que Imamura l'a choisi aussi pour ça, pour montrer parce que le Japon devient américain sur le plan social et économique. Et donc, il veut montrer ce que ça signifie, alors évidemment, je pense aussi, je n'ai pas dit tout à l'heure, il fait une impasse totale sur la guerre japonaise qui a été criminelle, il faut quand même le dire, notamment...
Ah bah il commence à Hiroshima.
Oui, il commence à Hiroshima, mais ce que ne dit pas avant, c'est 36, Nankin, etc.
Bien sûr,
l'unité 581, bon, on pourrait... c'est des crimes de guerre relevant du tribunal, d'un tribunal de Nuremberg, qui a siégé à Tokyo. Voilà. Non, il n'y a pas d'image. Donc, il transfère là aussi les images manquantes de ces crimes abominables sur cette violence, mais qui, encore une fois, une violence de masse et qui devient une violence terroriste juste à la fin. Et c'est là où il y a un basculement. Je pense que c'est mis en scène. Il y a des cadrages. Par exemple, il y a un cadrage permanent sur son décolleté. Bon, qui revient.
Difficile de ne pas le cadrer.
Oui, difficile de ne pas le cadrer, mais il le choisit. Il est en contre-plongée. Il est en contre-plongée. Je pense qu'elle aussi.
Là, je me demande si c'est pas votre cadrage. Enfin, c'est notre cadrage.
Non, en plus, elle porte des jupes courtes. Alors, je vais vous dire, sur cette femme, vous avez dit cynisme, honnêteté. Moi, ce qui me frappe, c'est son intelligence.
Eh ben, elle est extrêmement intelligente.
C'est pas l'intelligence de la culture, c'est l'intelligence des relations sociales, l'intelligence
des rapports
de force, mais aussi de des situations. Et franchement, à la fin, on ne peut, enfin, personnellement, malgré tout certains dégoûts, je ne peux être qu'admiratif de son intelligence.
Ah ben, je suis d'accord avec vous, mais l'un ne va pas sans l'autre, hein. Admiratif et en même temps un peu effrayé. Non, mais ben c'est ça qui est intéressant, c'est justement ce caractère, disons, contradictoire, non équilibré du personnage. Et je le redis, j'ajoute à ça cette part inentamée ou cette part sauvage qui ne sera pas disciplinée par le film. Alors, que le film soit mis en scène, je voudrais juste saisir au vol votre mot, tous les films sont mis en scène. Évidemment, alors plus ou moins, d'une manière ou d'une autre, mais il y a toujours évidemment mise en scène, y compris dans ce qu'on appelle documentaire. Je crois que je l'ai montré amplement au cours de ces séances. C'est toujours mis en scène, parce qu'il faut toujours qu'il y ait une caméra quelque part, éventuellement des lumières quelque part, et un corps quelque part. Ça s'appelle mise en scène, si vous voulez. Alors, moi, ce que j'ai essayé de souligner dans ma lecture, c'était plutôt l'acharnement et l'insistance de cette mise en scène, parce qu'évidemment, on peut tout à fait imaginer un autre cinéaste, y compris japonais, filmant tout autrement. Et par exemple, laissant Emiko parler pendant des minutes et des minutes en plan fixe devant la caméra. C'est parfaitement supposable. Si ça n'a pas lieu, c'est pas que ça n'a pas été tourné, c'est que ça a été monté autrement et que ça a été au tournage même cassé par la multiplication de ces axes dont je parlais. Vous avez le plan de profil, vous avez des gros plans en légère contre-plongée, vous avez des plans de face, vous avez des... on a une sorte de gamme incroyable d'axes et de valeurs de cadre et de lumière aussi d'ailleurs, qui, je le répète, pardon, mais désarticule, démantèle l'unité corporelle, on pourrait dire, du personnage tel qu'il est cadré et multiplie ce corps dans une multiplicité de cadres. Voilà, on pourrait dire des choses comme ça. Alors ça, bien sûr, ça n'est pas un hasard. Ça, bien sûr, c'est élaboré. Voilà. Mais dans cette élaboration, moi, c'est une lecture toute personnelle, hein, mais dans cette élaboration, je perçois, comme je l'ai dit, à la fois la rage ou l'insistance ou l'acharnement, c'est-à-dire un désir de saisir, hein, mais en même temps, je perçois une difficulté à le faire. Parce que, voilà, pourquoi se compliquer la vie, au fond, à l'extrême et démultiplier les manières d'approcher si c'est pas aussi parce que quelque chose échappe toujours et que Imamura est parfaitement conscient de ça. Voilà. D'ailleurs, le renversement qui s'opère peu à peu, et vous avez raison de le souligner, et qui fait qu'à la fin, on est épaté quand même par cette femme. Tout ce qu'elle dit dans l'aéroport sur le destin qu'elle projette sur ses maris américains est absolument hallucinant quand même. Et donc le bouquet final, si j'ose dire, nous laisse encore une fois saisi à la fois d'admiration, épaté, et en même temps on atteint là, le mot cynisme ne convient pas, mais quelque chose de, voilà, je sais. Alors peut-être que c'est une hypothèse dont je n'ai pas parlé, que j'ai laissée de côté. Bon, évidemment, la question qui peut se poser d'une autre manière, la remarque de Frédéric ou celle que j'ai pu faire à de nombreuses reprises, laisserait entendre que le sujet qui vient se livrer au jeu du film en attend une récompense symbolique, on pourrait dire les choses comme ça, c'est-à-dire une satisfaction du côté du surmoi. Bon. Du surmoi social, c'est-à-dire la société va reconnaître que le mendiant est un être noble et généreux. Bien. Alors, il semblerait dans ce film, et dans d'autres films aussi, hein, qu'il y ait une mise de côté ou une mise en suspens de la dimension surmoïque, et qu'on a un personnage qui n'a pas peur de dire des choses qui ne peuvent pas plaire, qui peuvent ne pas plaire, ou qui, à tout coup, ne vont pas plaire. Voilà. Et donc, on n'est plus dans cette dialectique où, au fond, le cinéma sert au sujet filmé à se mettre en valeur, disons les choses comme ça, d'une manière ou d'une autre. Mais là, la mise en valeur est contradictoire. Elle passe par l'envers de la mise en valeur. C'est en se révélant telle qu'elle est, c'est-à-dire pas forcément très, très belle à l'intérieur, et en le disant elle-même, hein, que quelque chose va se réaliser pour elle. On pourrait interroger cette mise en suspens du surmoi dans la relation documentaire. Et là, je pense très précisément au film que Frédéric a cité tout à l'heure, Dans la chambre de Wanda, où Wanda, qui a désiré ce film, qui s'y est adonnée, si j'ose dire, comme elle s'adonne à d'autres drogues, Wanda se montre dans tous ces états qui ne sont pas glorieux. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et donc, un usage du cinéma qui irait à l'encontre de celui qui domine, enfin du cinéma documentaire qui irait à l'encontre de celui qui domine et qui est plutôt un usage, je le disais, consolateur, bienfaisant, réparateur, où quelque chose se reconstitue d'une dignité, d'une beauté du vivre, disons, voilà. Alors que ici, comme dans la chambre de Wanda, mais comme aussi dans le film de Wang Bing qui s'appelle À l'ouest des rails et que j'espère vous avez vu, bon, voilà, les sujets filmés ne craignent plus ou ne craignent pas tout simplement de se livrer à la caméra sans aucune espèce de ni de gêne, ni de honte, ni de pudeur. Il y a eu, oui, voilà, l'impudeur est à l'œuvre. Alors ça, c'est une dimension que ça apparaît en 1970, quand j'ai analysé le film de Wang Bing, j'en ai fait une dimension actuelle, c'est-à-dire des années de 2004, 2005, 2003, ben, j'ai l'impression que de point en point, ça ressurgit, quoi. Comme si ce qui apparaissait à travers le geste documentaire, c'était quelque chose qui est réfractaire à la logique cinématographique elle-même, qui est toujours, enfin, qui, à mon sens, est toujours une logique de rédemption. Hein, voilà. Le spectateur va au cinéma pour sauver quelque chose de, voilà, de son imaginaire, de ses possibilités désirantes. Hein. Et puis, sur l'écran, ce qui se passe permet précisément ce sauvetage. Alors, voilà, il y a quelques films dans lesquels ça n'a pas lieu, et ce sont là ces films-là qui nous interrogent. Voilà, je vous propose de nous arrêter là sur cette question. Et...
Oui, enfin, moi j'avais juste une remarque, mais qui vient un peu, en parallèle avec la vôtre.
Et attendez, je ne vous vois pas du tout là.
Je suis là.
Ah, pardon.
Enfin, moi, ce que je trouve justement magnifique, c'est qu'il y a une vraie accointance entre ce qu'est cette femme et sa propre parole. Et c'est pour ça que elle a beau être, enfin, cette parole de femme a beau être mise en question par les images, par aussi, je dirais, ce qu'en disent sa propre mère ou sa fille, eh ben, il y a quelque chose qui reste, et comme vous dites, qu'on peut pas désamorcer, qui est là et qui est tangible et qui tient la route. Et je trouve que c'est, quand aussi, il y a des moments dans le film le réalisateur lui demande de commenter les images, où elle est face à des images. Et là, pareil, je dirais que sa parole est en plus forte que des images qui pourtant sont d'un réel inouï. Et moi, je trouve que c'est ça, en fait, la force de ce film. C'est cette parole-là qui est dans un film et qui, en même temps, je dirais, dépasse le champ du film. Et quand on lui dit, enfin, on lui montre ces images de guerre du Vietnam et elle les remet en question en disant « non, je n'y crois pas ». Je veux dire, je trouve que c'est en même temps pour nous en tant que spectateurs, c'est à la fois inaudible et en même temps sa parole reste là ancrée en nous.
Oui, vous avez tout à fait raison. Bon, j'ai tenté de le dire à ma manière en disant que cette parole, en effet, était insituable et que donc qu'elle se posait ou qu'elle passer dans toutes sortes d'images, dans toutes sortes de situations. Mais je voudrais m'attarder un instant sur l'histoire des photos du massacre de My Lai, parce que là, c'est très intéressant la manière dont ça se passe. C'est elle qui donne une leçon de mise en scène à Imamura. elle croit au cinéma. Elle dit, mais ça pourrait être faux, on pourrait avoir amené ces cadavres-là, on pourrait avoir fait une mise en scène. Et Imamura, lui, réclame l'authenticité, la vérité de la photographie. C'est un renversement de place, bon, qui évidemment, pour nous aussi, devrait être très troublant, puisque, au fond, cette question, je le redis une fois de plus, c'est la question du spectateur. Elle se comporte dans le spectateur. Est-ce que c'est bien vrai, ce qu'on me montre ? Voilà. Bon, je vous remercie.